un podcast France Culture.
Et le journal vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. La France va envoyer de l'aide humanitaire à Gaza sous la forme de largages aériens. Israël qui desserre son étau face à la pression internationale. Mais il y a urgence pour éviter la famine, alerte l'ONU. On fait le point avec Nathanaël Charbonnier dans un instant. Émotion et colère en Cisjordanie après la mort d'un militant palestinien pris à partie par des colons israéliens. Le militant avait participé à la réalisation du documentaire oscarisé No Other Land. La faim recule au Brésil. 40 millions de Brésiliens sont sortis de l'insécurité alimentaire en 2 ans. Un résultat dont se félicite le président Lula, qui critique au passage son prédécesseur Jair Bolsonaro. En France, Gérald Darmanin occupe le terrain pour défendre sa réforme du système judiciaire. Le garde des Sceaux a détaillé son projet destiné à lutter contre le laxisme supposé de ce système. Il faut inonder Gaza de nourriture, affirment 3 agences de l'ONU, le Programme alimentaire mondial, la FAO et l'UNICEF, qui lancent ce soir un appel solennel pour éviter une famine généralisée dans l'enclave palestinienne assiégée par Israël. L'État hébreu qui commence à relâcher la pression militaire en autorisant des largages aériens de vivres. Nathanaël Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Ces largages ne suffiront pas à sortir Gaza de la crise humanitaire, mais plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé d'utiliser la voie des airs pour venir en aide à une population affamée.
Oui, il s'agit pour Paris bien de répondre aux besoins les plus essentiels et les plus urgents de la population civile. L'opération sera menée avec la plus grande précaution pour assurer la sécurité des populations. Vous savez, ce genre de largage est en effet dangereux car les paquets peuvent tomber n'importe où. Ils ont déjà fait des victimes par le passé, sans compter que leur réception peut entraîner des tensions dans la population. Il faut savoir que la France en a déjà réalisé, notamment en février 2024. Emmanuel Macron avait communiqué sur le sujet en expliquant travailler à l'époque avec la Jordanie. Mais ces largages ne sont qu'une partie de l'aide que souhaite apporter notre pays, qui travaille aussi à l'acheminement par voie terrestre de denrées. Cette aide viendra s'ajouter à celle de l'Espagne ou encore de l'Allemagne, qui annonce également faire des largages. L'Allemagne va ainsi envoyer dans les heures à venir 2 avions de type A400 remplis de marchandises et de nourriture. Autant d'initiatives qui sont les bienvenues, mais qui ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins de Gaza. L'ONU explique ainsi que pour faire face, il faudrait chaque jour qu'au moins 500 à 600 camions de nourriture, médicaments et produits d'hygiène entrent dans l'enclave palestinienne.
Voilà pour le terrain, Nathanaël, mais cela restera insuffisant si ces opérations humanitaires ne sont pas appuyées par des initiatives diplomatiques.
Oui, et l'initiative la plus visible, on la doit à la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Berlin, Paris et Londres vont probablement demander jeudi prochain que leur ministres des Affaires étrangères respectifs se rendent en Israël. C'est le chancelier allemand, lors d'une conférence de presse commune avec le roi d'Abdallah II de Jordanie, qui a parlé de cette possibilité. L'idée de ce déplacement allemand, français et anglais est de relancer les négociations en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. À ce jour, la guerre déclenchée en octobre 2023 a fait 1219 victimes en Israël et 60 000 morts côté palestinien.
Explication signée Nathanaël Charbonnier. Cette violence provoquée par les massacres du 7 octobre 2023. Cette violence est aussi propagée en Cisjordanie avec un nouveau drame aujourd'hui. Un activiste palestinien tué par balle dans un village situé au sud d'Hébron. Aoudeh Azaline avait participé à la réalisation du documentaire oscarisé No Other Land. Vidéo à l'appui, les Palestiniens affirment que c'est un colon israélien qui l'a abattu. La France condamne ce soir, je cite, des actes de terrorisme commis par les colons. Alice Moreno nous appelle de Ramallah.
La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Elle se déroule dans le village d'Oum El Kheir qui jouxte la colonie israélienne de Carmel au sud d'Hébron. Alors que des militants palestiniens s'approchent d'un secteur où vient d'entrer un bulldozer israélien, un homme s'interpose. Il s'agit de Yinon Levy, un colon connu pour avoir multiplié des actes violents en Cisjordanie et sous le coup de sanctions internationales. Dans cette vidéo, il menace les Palestiniens avec une arme à feu, le ton monte. Le colon tire à plusieurs reprises. On voit ensuite un homme au sol, encore vivant, mais qui perd beaucoup de sang. Touché à la poitrine, il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. La victime est l'activiste palestinien Aoudeh Hazaline, très impliqué dans la défense des droits de sa communauté. Il a notamment aidé à la réalisation de No Other Land, qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire cette année et traite de la lutte des Palestiniens contre la démolition de leur maison par l'armée israélienne. Un des réalisateurs du documentaire dénonce aujourd'hui l'assassinat de son ami. La police israélienne assure qu'une enquête est en cours et qu'un Israélien a été arrêté sur place, sans toutefois préciser son identité. D'après des journalistes locaux, des proches de la victime et des militants qui venaient présenter leurs condoléances à la famille d'Aoudeh Hazaline, ont été expulsés aujourd'hui par l'armée israélienne.
Alice Moreno, correspondante en Cisjordanie occupée. Malgré les guerres à Gaza, au Soudan, au Yémen ou en Haïti, la faim dans le monde a légèrement reculé en 2024, selon les derniers chiffres de l'ONU. Elle a touché l'an dernier 8,2% de la population mondiale, en recul de 0,3% sur un an. Au Brésil, l'évolution est encore plus spectaculaire, puisque 40 millions de Brésiliens sont sortis de l'insécurité alimentaire depuis 2022. C'était une promesse de campagne du président Lula, qui n'a pas manqué de célébrer ses bons résultats. Le reportage à Rio de Sarah Cozzolino.
Je suis heureux, car quand les chiffres seront actualisés l'année prochaine et ne prendront en compte que mon mandat entre 2023 et 2025, je vous garantis que les données seront encore meilleures, car dans ce rapport de l'ONU, nous portons aussi l'année 2022, qui a été une très mauvaise année.
Sourire aux lèvres et larmes aux yeux, Lula a pris la parole sur sa page officielle et il n'a pas manqué d'attaquer sans le nommer son rival, Jair Bolsonaro, président entre 2019 et 2022. Le taux de personnes atteintes de sous-nutrition sévère est désormais inférieur à 2,5% de la population brésilienne. C'est le résultat d'un ensemble d'actions gouvernementales, notamment avec le retour du programme d'aide sociale Bolsa Família, interrompu par l'ancien président. La création de banques alimentaires ou encore le soutien à l'agriculture familiale ont aussi participé aux bons résultats, et ce malgré une inflation de produits alimentaires ces dernières années. Mais ce n'est pas la première fois que le Brésil éradique ce fléau. C'était le cas en 2014, à la suite des deux premier mandat de Lula. Seulement, après des coupes budgétaires du gouvernement Temer puis Bolsonaro, mais aussi de la pandémie, la situation s'est à nouveau dégradée. Ces données sont donc fragiles et ne prennent pas en compte la qualité de la nutrition, car au Brésil, un quart de la population est obèse et un dixième souffre de diabète, selon le ministère de la Santé.
Sarah Cozzolino, correspondante au Brésil. Partons en Espagne à présent pour évoquer ce nouvel allongement du congé parental pour accompagner la naissance d'un bébé et ses premiers mois, 17 semaines de congé maternité et paternité et même 19 semaines si l'on rajoute 2 semaines possibles jusqu'au 8e anniversaire de l'enfant. L'Espagne du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, qui a placé l'égalité entre les papas et les mamans au cœur de sa politique de natalité. Mathieu de Taillac nous appelle de Madrid.
Techniquement, cela fait d'une part une semaine de plus qu'actuellement pour le congé de paternité et de maternité, 17 semaines donc. Mais il y a aussi dans le décret 2 semaines de congé parental rémunéré, ce qui est une nouveauté. Le congé parental existait déjà en Espagne, mais jusque-là, il n'était pas payé. La ministre du Travail, Yolanda Díaz, a additionné les deux pour présenter sa mesure.
Son 3 semanas, por tanto, alcanzamos 19 semanas.
Ce sont 3 semaines, on arrive donc à 19 semaines de caractère rétribué.
Monoparentales en un 80% conformadas por mujeres.
Et les familles monoparentales formées à 80% par une femme seule auront droit dès aujourd'hui dans notre pays à 32 semaines de congés rétribués.
En nuestro país.
Le compte est bon. La ministre du Travail insiste aussi sur le caractère féministe de la mesure et de son gouvernement, parce que le congé de paternité est aussi long que le congé de maternité et qu'il ne peut pas être transféré. Yolanda Díaz.
À la différence d'autres États membres, notre congé est lié à la co-responsabilité entre les hommes et les femmes.
Entre los hombres y las mujeres.
Aujourd'hui, 4 hommes sur 10 prennent leur congé dans notre pays et c'est une avancée féministe qui aide à vivre dans un pays meilleur.
Feminista que ayuda a tener un país mejor.
La porte-parole du gouvernement, de son côté, a rappelé un chiffre. En 1980, les mères avaient droit à 2 semaines de congé à la naissance, les pères, eux, à 2 jours. C'est à partir de 2019 que le gouvernement de Pedro Sanchez a peu à peu aligné le congé des hommes sur celui des femmes, avant d'augmenter le tout pour tout le monde.
Les juges ne sont pas laxistes, mais le système l'est devenu. Voilà comment Gérald Darmanin résume l'esprit de sa réforme du système judiciaire. Le garde des Sceaux a précisé son projet hier, après l'avoir dévoilé au printemps. Avec plusieurs mesures phares, multiplication des cours criminelles sans juré, sursis simple réservé aux primo-délinquants, ou bien extension de la procédure de plaidé coupable à certains crimes. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Gérald Darmanin occupe la scène médiatique pour donner l'image d'un ministre à poigne.
Oui, car cela fait maintenant 3 mois que Gérald Darmanin a lancé l'idée d'un plaidé coupable, reprise parmi les pistes d'un rapport commandé par son prédécesseur, une procédure actuellement possible pour certains délits qui pourraient être étendus au crime avec l'accord de la victime. En mai dernier, le ministre avait adressé une lettre au magistrat où il a affiché déjà sa volonté de faciliter l'accès de la justice, clarifier les peines et repenser la prison. Désormais, son projet porte un nom, la loi Sûre, sanction utile, rapide et effective, qu'il compte présenter à l'automne en Conseil des ministres après avoir saisi le Conseil d'État pour avis. Le projet vient d'être adressé cette fois au groupe parlementaire. Rien de très différent des principales mesures déjà énoncées. Gérald Darmanin veut notamment revenir sur le principe d'aménagement des peines instauré en 2020 et étendre la compétence des cours criminelles départementales, composées non plus de jurés mais de magistrats professionnels. Un pas de côté, en revanche, sur la question du sursis, qu'il avait annoncé vouloir supprimer. Il propose de le réserver aux seuls primo-délinquants, ceux qui ont un casier judiciaire vierge. Dans cette nouvelle étape du planning, le ministre soigne aussi ses éléments de langage. Les juges ne sont pas laxistes, mais le système l'est devenu, dit-il. Pas d'attaque frontale donc contre les magistrats qui n'avaient guère apprécié sa suggestion d'instaurer des peines minimales lors des incidents survenus après la victoire du PSG en Ligue des Champions en juin dernier. Rémi Heitz, le procureur général près la Cour de cassation, s'était alors inscrit en faux contre ce prétendu laxisme des juges en suggérant de les laisser plutôt faire leur travail dans la sérénité.
Florence Thurme, spécialiste des questions de justice à la rédaction de France Culture. Pour la première fois depuis 1946, la Nouvelle-Calédonie perd des habitants. 264 596 aujourd'hui, 6811 de moins qu'en 2019. Ce sont les premiers résultats du recensement mené par l'Institut de la Statistique et des Études Économiques. Alors si le solde naturel calédonien reste positif, le solde migratoire plonge dans le rouge. Les départs de Nouvelle-Calédonie sont désormais plus nombreux que les arrivées dans l'archipel. Faut-il y voir une conséquence des émeutes de l'an dernier? Le Covid a-t-il joué un rôle dans ce tournant démographique? Élément de réponse avec Jean-Philippe Groutier, chef de la mission recensement en Nouvelle-Calédonie.
Quand la population vieillit, il y a moins de naissances. Les personnes plus âgées n'ont plus d'enfants. On sait aussi qu'il y a une baisse de la fécondité, donc qu'on observe un peu partout en France, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, où les femmes ont en moyenne moins d'enfants aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Pour l'instant, on n'a pas encore une mesure des arrivées et des départs, donc c'est difficile de se prononcer. On avait déjà, dès la période 2014-2019, plutôt moins d'arrivées, une moins grande attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Et le Covid a conduit à un accroissement de la mortalité, au moins temporaire. Il est clair que les événements de mai 2024 ont pu peser sur l'attractivité, mais aussi inciter certaines personnes à quitter le territoire. Donc tous ces événements-là sont plutôt des facteurs qui tireraient plutôt la population vers le bas. Après, chiffrer la part relative de chacun de ces facteurs, aujourd'hui, on ne dispose pas des informations nous permettant de le faire.
Le chef de la mission recensement en Nouvelle-Calédonie, Jean-Philippe Groutier, répondait à Inès Figuigui. Le chômage a légèrement augmenté au deuxième trimestre en France. Hors Mayotte, plus 0,2% selon France Travail. Il y a aujourd'hui 3,2 millions de personnes sans aucune activité. À noter que depuis janvier, les bénéficiaires du RSA sont automatiquement inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi. Une mauvaise nouvelle pour plus de 13 millions de contribuables qui viennent de recevoir leur avis d'imposition. Ils vont devoir payer un reliquat d'impôt de 1900 euros en moyenne au titre de l'année 2024. France Info a pu confirmer auprès de la Direction Générale des Finances Publiques l'information du journal Le Parisien. L'an dernier, un peu moins de 10 millions de contribuables avaient dû s'acquitter d'un reliquat moyen de 2127 euros au titre de l'année 2023. Le groupe Renault devrait nommer demain son nouveau directeur général et l'annoncer ce même jour après la fermeture de la bourse. Le directeur des achats et des affaires publiques du groupe, François Provost, est pressenti pour succéder à Luca de Meo, selon Bloomberg, Les Échos et Le Figaro. François Provost a piloté pour Luca de Meo le plan de transformation Renault-Lution qui a sauvé Renault en orientant le groupe aux losanges vers des véhicules plus haut de gamme. Un mot du temps demain, mitigé sur la moitié nord, avec de nombreuses averses des Hauts-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté, des ondées également sur le littoral aquitain et les Pyrénées. Le soleil domine sur les régions méditerranéennes. Demain matin, il fera entre 9 et 20 degrés du nord au sud. L'après-midi, les maximales iront de 20 à 32 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alix Forgeot à la technique. Il y avait Ludovic Auger.